Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue dans Dialogue, une émission proposée par Aligre FM. Aujourd'hui, samedi 2 mars. Nous avons deux invités de marque. Myriam Cohen, professeure des écoles, directrice d'une école élémentaire à Vanves. Bonjour.
Bonjour.
Et Catherine Robert, professeure de philosophie au lycée Lamartine à Paris. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour parler d'éducation en général et pour parler de ton livre, Catherine, puisque je vais te tutoyer. Je ne te connais pas depuis très longtemps, nous nous connaissons depuis 3 ans. Et c'est une grande joie de te connaître. Donc nous parlerons de ce livre, Les Aventures de Merveille, publié chez Elliott Éditions à l'automne dernier. C'est un livre qui est illustré par Valérie Nkogodong, je sais bien prononcer, magnifiquement illustré et qui nous a fait beaucoup rire, Myriam et moi. Et Myriam, je te connais depuis plus longtemps puisque tu as été la maîtresse de mes enfants, mon
Absolument.
Premier et mon dernier enfant. Donc je te remercie beaucoup d'être là. C'est une histoire longue et collective d'éducation de nos merveilles.
Tenais à le dire, excuse-moi Christine, que j'avais lu le livre de Catherine, que je recommande vivement. Très drôle, très enlevé et tellement vrai.
Merci, on va en parler dans le détail. Et c'est une émission que j'aimerais que nous dédicassions, puisque nous sommes avec une institutrice de Vanves, un personnage de Vanves qui m'est cher, une personne qui s'appelle Manfred Sejdowski, qui est médecin et magicien sur le haut plateau de Vanves, qui m'a appris beaucoup de choses. Il est champion du lexique en yiddish simple pour tous les jours. Il connaît toute la mémoire de Vanves, il dispense son savoir au carrefour de l'insurrection à Vanves. Et c'est lui-même qui m'a rappelé, à l'occasion de notre correspondance, le nom de sa maîtresse de 8e à qui il était très attaché, Madame Abagi, à la mémoire de laquelle nous allons dédier l'émission de ce jour, si vous voulez bien, Catherine et Myriam. Mmh. Madame Abagi, à qui il a longtemps écrit des cartes postales, qui était elle-même institutrice à l'école du Centre, devenue aujourd'hui école Jacques Cabour. Et Jacques Cabour, ça ne vous a pas échappé, chers auditeurs, chères auditrices, et même Catherine, qui a l'habitude de faire travailler sur ses élèves sur les réseaux de résistance, je le sais, puisqu'elle m'a partagé plusieurs fois le sujet de ses cours, dans sa grande générosité. Jacques Cabour, il était lui-même instituteur résistant du réseau Valmy, et il a été fusillé en 44. Donc, une pensée pour cette institutrice, Madame Abagi, aujourd'hui, à la lecture du livre de Catherine Robert. Alors, on va commencer par vous écouter, Myriam. Je te présente rapidement. Tu es directrice donc d'école à Vanves, à l'école du Parc.
École Marceau à Vanves.
École Marceau, pardon. Tu vas nous raconter un peu comment tu es venue à ce métier, depuis combien de temps tu es à Vanves et quel a été ton parcours. Alors je rappelle quand même ici qu'au studio d'Aligre, nous sommes dans un nouveau studio qui est prêté par la Ligue de l'enseignement, j'aime quand même tout de même à le rappeler, hein. Parce que ça compte aussi, la Ligue de l'enseignement. C'est une histoire longue de colonies de vacances, d'enfants qui ont été accueillis dans leur mixité, dans leurs différences, qui sont encore accueillis aujourd'hui lors de classes de neige, de classes découvertes. Et c'est un travail important. Et je crois que les colonies ont beaucoup compté pour toi aussi, Myriam. Et Merveille, le petit personnage de Catherine, ne part pas beaucoup en colonies de vacances, mais on en reparlera. Alors, Myriam, ton parcours.
Alors, mon parcours, je vais essayer d'être concise quand même, parce que je ne suis pas toute jeune. Alors, après un bac littéraire, j'ai entrepris des études d'histoire à la Sorbonne, donc une licence. Et au sortir de cette licence, j'avais pas envie d'aller travailler tout de suite. Donc j'ai eu la grande joie d'être gentille organisatrice au Club Méditerranée. Voilà, pour pas faire de pub, mais j'en fais quand même un peu. Et puis, suite à cette expérience, j'ai passé le concours pour être professeur des écoles. Voilà, donc c'était pas une vocation de départ très prononcée. Et comme je l'ai eu, ce concours, du premier coup.
Waouh.
J'ai appris le métier sur le tas. Et puis, ça m'a beaucoup plu. Donc ensuite, j'ai continué. Et donc aujourd'hui, ça fait 20 ans que j'enseigne. Donc, sur du premier degré, des classes de CP avec des enfants de 6 ans jusqu'en CM2, des enfants de 10 ans que je prépare au collège. Voilà, et donc j'ai enseigné un peu dans le 92. Et mon dernier poste, là, c'était il y a 5 ans. J'ai passé la direction. Donc aujourd'hui, j'ai la double casquette, enseignante en CM2 et en direction d'école, avant 20.
Très bien, merci. Catherine, on va revenir sur ton itinéraire. Tu as très longtemps travaillé dans l'Académie de Créteil. Toi-même, est-ce que tu pourrais revenir sur ton propre parcours ou ton propre désir d'entrer en philosophie ?
Après le lycée, j'ai fait des études de philosophie parce que je ne savais pas bien quoi faire d'autre. Rien ne m'intéressait davantage. Et puis, comme il s'est agi de trouver un métier par après et que aller ramasser des fraises me convenait assez moyennement, je suis devenue prof de philo en passant le CAPES de philo. Voilà, donc j'ai fait un stage à Longjumeau et puis après je suis partie dans le Pas-de-Calais comme pas mal de profs qui passaient les concours à Paris pour revenir ensuite à Aubervilliers où je suis restée 20 ans, plus de 20 ans et puis aujourd'hui au lycée Lamartine dans le 9e arrondissement à Paris.
Oui, c'est une longue histoire. Et cette longue histoire donc qui a donné lieu à l'écriture de ce premier livre, on peut bien parler de premier livre, n'est-ce pas ? Première satire, quand bien même, effectivement, il y a eu beaucoup d'écrits sur un travail collectif que tu as mené en anthropologie, en sociologie, pendant toutes ces années, tout de même à Aubervilliers, un travail que j'ai lu, puisque tu me l'avais transmis, qui nous rappelle tout de même que ce merveilleux bijou des aventures de merveille dont je vais vous lire tout de même le premier chapitre, chers auditeurs, chères auditrices, pour vous donner vraiment envie de le lire et pour vous donner envie comme, comme nous de l'offrir en cadeau de naissance. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait maintenant.
Je ne sais pas si c'est la meilleure idée, ça.
Pour mettre un peu les parents au parfum. Je lis ce premier chapitre aux merveilles et puis on reparle un petit peu de ce que représente justement ce livre qui se présente un peu comme les aventures de Martine à la plage hein, avec différents chapitres. Premier chapitre, aux merveilles. Deuxième chapitre, merveille à la crèche. Merveille et la boîte magique. Merveille chez papa. Merveille et la maman de papa. Bon, bref, vous avez une trentaine de chapitres qui détaillent la vie trépidante de ce petit garçon très aimé. très, très choyé et qui est le fruit d'une observation tellement précise, tellement juste, tellement fine. C'est vrai, hein, Myriam l'a dit, qu'il nous rejoint là où nous sommes, à la fois enseignants, enseignés, parents, enfants. Oui, c'est un regard vraiment panoptique. Alors, lecture, aux merveilles. Merveille est née. Comme toutes les femelles mammifères, la maman de Merveille, dans un ultime effort, a expulsé Merveille. Et l'aventure a commencé. Merveille n'a rien d'extraordinaire en soi, mais ce qui est extraordinaire, c'est que sa maman ait réussi à le fabriquer, vu tout le boulot qu'elle a par ailleurs. Elle aurait pu y arriver avec le secours de la science, sans papa, ou avec un papa intermittent, avec un papa déjà papa, ou en âge d'être grand-père. Peu importe, l'essentiel est que maman soit devenue mère. Autour de Merveille, on ne dit pas père ou mère, on dit maman et papa. On dit l'heure des mamans quand il faut quitter la crèche. Maman parle des autres mamans en ne prononçant pas le mot mère. Et d'ailleurs, on ne dit même pas non plus mémé, pépé, grand-père, mamie. On utilise des mots inventés qui individualisent le rapport de filiation et servent la coquetterie de la génération précédente. La maman de maman est vieille. Mais comme elle fait du yoga et porte des jeans, elle répugne à ce qu'on la désigne comme elle-même appelait sa grand-mère qui portait un tablier et des bas de contention. Quand il s'est agi de trouver un prénom à Merveille, maman a parié sur l'originalité. Elle ne voulait pas que Merveille soit un jour confondue avec un autre être humain. Merveille est à la fois le genre, l'espèce et l'individu. Merveille est unique puisque c'est la maman de Merveille qui l'a créée. Et que ça a été un vrai challenge de gérer la grossesse et ses tracas. Merveille est peut-être une fille, peut-être un garçon, peu importe. Merveille choisira son genre quand Yel en aura décidé. Le genre, c'est un peu comme l'onomastique et comme toutes les règles fascistes que l'on impose aux humains dans cette société corsetée. Insupportable. Chacun fait comme il veut, c'est mieux. C'est ça, la vie moderne. Merveille et merveille. La tautologie suffit à démontrer sa perfection. Merveille, fruit d'entrailles de compétition, est béni. Il fera la loi, ce qui est logique, puisque Merveille est le pivot du monde.
Une belle entrée en matière.
Oui, alors c'est comme ça pendant tout le livre. C'est parfois un peu méchant.
Non, mais il y a de la tarte à la Mirabelle aussi, quand même.
Oui.
Pour adoucir.
Oui.
Non, c'est piquant et tendre.
Oui.
Il y a les deux.
Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, Catherine, quand tu as écrit ce livre, hein, exactement, et comment tu as observé, tu disais hors antenne que tu avais beaucoup écouté. Je voudrais savoir comment tu arrives à te mettre si facilement dans la peau d'un enfant devenu pivot du monde, devenu roi, et qui nous regarde, nous tous qui essayons de l'élever, d'éduquer.
Christine, moi je te rejoins parce que je suis très curieuse de savoir comment tu as pu mettre par écrit. Ouais, voilà.
Mais je vais répondre comme Flaubert, en fait, Merveille, c'est moi.
Oh non mais... Non, très bien, Emma.
Non, j'ai écrit ça en février et mars dernier. Et en fait, j'avais commencé, j'avais pas du tout le projet d'écrire un livre. À vrai dire, j'ai commencé à écrire des petites pastilles qui me faisaient rigoler et à les envoyer à des copains dont je sais qu'ils aiment rigoler. Et parmi les destinataires de ces envois, il y avait Mathieu Mulcet, qui est éditeur, qui dirige les éditions Elliott et qui m'a proposé d'éditer l'ensemble des aventures de Merveille. Donc, moi, ce n'était pas mon projet, parce que globalement, mon projet en général dans la vie, c'est plutôt de me marrer avec mes copains plutôt que de faire des choses sérieuses. Mais au-delà de ça, c'est parti comme ça. Donc, Merveille s'est retrouvée et illustrée d'abord par Valérie avec beaucoup de talent et puis éditée. Donc voilà que Merveille est devenue un personnage en papier, mais c'était pas le projet initial en fait.
Le projet initial, c'était juste un feuilleton entre potes pour se marrer et pour rire de nous-mêmes.
C'est ça. Et des autres qui sont infiniment plus grotesques que nous, quand même, tout de même, rappelons-le.
Oui, tout à fait. Et justement, j'aurais bien aimé que peut-être tu reviennes sur... Et on va y revenir précisément après avoir écouté La Femme du Vent d'Anne Sylvestre, interprétée par Messia et Laura Cahen. J'aimerais bien que tu reviennes très précisément à la dédicace à Wafa et Alan. Peut-être tu nous diras qui sont ces deux enfants ou ces deux jeunes ou ces deux personnes. Et à l'exergue que je vous lis tout de suite aussi, qui est une exergue extrait d'une vie de Maupassant et qui, moi, m'a rappelé beaucoup l'étude que Jean Salem propose de la philosophie de Maupassant, et on va en reparler tout à l'heure. Donc, l'exergue est celle-ci. Elle voulut connaître son enfant. Il n'avait pas de cheveux, pas d'ongles, étant venu trop tôt, mais lorsqu'elle vit remuer cette larve, qu'elle la vit ouvrir la bouche, pousser des vagissements, qu'elle toucha cet avorton fripé, grimaçant, vivant, elle fut inondée d'une joie irrésistible. Elle comprit qu'elle était sauvée, garantie contre tout désespoir, qu'elle tenait là de quoi aimer à ne savoir plus faire autre chose. Dès lors qu'elle n'eut plus qu'une pensée, son enfant. Elle devint subitement une mère fanatique, d'autant plus exaltée qu'elle avait été plus déçue dans son amour, plus trompée dans ses espérances.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et m'éparpille, le vent me souffle des discours. Pardis, c'est ennuyeux, ma fille. Ça l'est bien plus encore, maman, car le grand vent est mon amant.
Vive l'amante du vent, boucle ton corset, baisse bien la tête, méfie-toi. Qui aime le vent engendre la tempête, engendre la tempête. Maman, le vent partout me suit, le vent me presse et me bouscule.
Méfie-toi qui aime le vent, engendre la tempête, engendre la tempête. Maman, le vent m'aime si fort que je dois ouvrir les fenêtres. Il ne veut plus coucher dehors et je crois qu'un enfant va naître.
Bien, alors cet exergue, Catherine, d'une vie de Maupassant. Alors, tu aimes passer tes vacances en Normandie. Je pense que tu es une grande lectrice de Maupassant. Bien sûr, donc une vie, ça ne vous a pas échappé. C'est l'histoire de terrible d'un mariage raté, hein, on peut le dire. Avec cet enfant prématuré, Paul, que sa mère Jeanne ne parvient ni à éduquer, ni à rendre indépendant, Et c'est cet enfant qui va, soi-disant, la sauver du désespoir dans cette vie désolante.
Enfin, croit-elle, parce que en l'espèce, c'est pas le cas. Et lui aussi la déçoit.
Oui, en effet. Et donc, oui, oui, croit-elle, bien sûr, c'est le royaume de l'illusion et du simulacre. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu choisis exactement cette nouvelle de Maupassant
à cause du croit-elle, c'est-à-dire que c'est cette folie-là.
Cette sauvagerie maternelle.
Des parents qui croient pouvoir fabriquer un enfant parfait qui sera à l'abri de toutes les avanies de l'existence, qui est problématique, je crois. Et la pauvre Jeanne chez Maupassant, elle est trahie par son fils parce qu'elle l'a trop aimé. Donc peut-être bien que il faudrait que, mais ça va faire bondir Myriam, il faudrait peut-être que les parents aiment un peu moins les enfants, lâchent un peu la grappe aux enfants, laissent les enfants grandir, partir, s'émanciper, faire des conneries, sécher l'école,
raté des choses. Mais contrairement à ce que tu penses, plutôt d'accord. Au final, ça ne me fait pas du tout hurler.
Et ouais, mais peut-être que ça irait mieux. Enfin, accepter aussi qu'on peut échouer et que c'est pas si grave et que de toute façon, mais ça c'est pas moi qui le dis. Quelle que soit la manière dont on élève un enfant, on échouera forcément. Donc c'est bien aussi de l'admettre, ça permettrait de détendre un peu tout le monde. Moi c'est ça aussi que j'ai voulu dire, c'est que ce monde-là manque finalement de tendresse et de détente, et que si les gens se prenaient un peu moins au sérieux, si la mère de merveille considérait pas que sa maternité est un métier, une fonction ou une mission, peut-être bien que Merveille pousserait dans des conditions un peu moins angoissantes pour lui.
Oui, mais est-ce que je peux rebondir ? Est-ce qu'on peut reprocher aux gens qui ont des enfants de les aimer du mieux qu'ils peuvent ? Alors peut-être qu'ils se trompent, et souvent c'est aussi le cas. Mais je pense qu'ils essayent vraiment de les choyer, de les aimer pour les protéger de cette société difficile.
Ah oui, mais moi je reproche rien à personne. Les gens font comme ils peuvent, évidemment.
Voilà. Oui, mais finalement ce que tu décryptes très très précisément, hein, c'est cette façon de construire très tôt l'enfant comme un objet dès la crèche, de ne pas chercher du tout à l'émanciper du reste. Et ce qui m'a intéressée finalement dans cette façon de prendre les choses à la racine de la famille, en fait, et puis d'une famille privilégiée, disons-le.
Ah oui, parce que la mère, elle a fait HEC, c'est pas rien non plus.
Bah oui. Oui, et puis il faudrait quand même pas que ça l'empêche de bosser pendant le confinement. Non, elle a pas fait HEC pour être instite pendant le confinement. Page 123, quand même, faut pas déconner. Donc, oui, bien sûr, ça c'est tout à fait... dans le fond, c'est ça, oui, envisager cet enfant comme la réalisation sacrée, on ne sait pas très bien quoi d'ailleurs. Mais bref, ce que j'ai retrouvé justement dans ce regard très très précis sur la famille, sur le regard de la mère sur son enfant, bien sûr, ça m'a fait penser aussi à la sauvagerie maternelle de d'Anne de Fourmentel, hein, cette façon justement que chaque femme a parfois de se complaire dans cette fausse réussite qui consiste à exposer ses enfants en permanence sur les réseaux sociaux aussi, que tu détestes, Catherine, et tu as bien raison, à exposer leur réussite, leur diplôme. Bon, bref, Les enfants ne sont pas des trophées, en effet. Et on les aime quand ils échouent aussi. Et oui, ce que j'ai retrouvé finalement, c'est certainement une préoccupation très humaniste et puis une préoccupation chez toi pour la raison et pour ce que tu trouves dans l'expérience des Lumières, c'est-à-dire cette expérience de Rousseau et de Condorcet que si on ne passe pas par l'égalité, par la prise de conscience très claire qu'on est égaux, que les enfants sont égaux et que donc effectivement il faut accepter qu'ils se mélangent. Bon, on est bien loin de ce qui se passe aujourd'hui à l'éducation nationale. Et ton livre, c'est sûr, après comment dire, la valse dernière des ministères, du ministère de l'éducation nationale, est vraiment un pied de nez.
Ah bah, oui, c'est sûr que la mère de Merveille aurait pu déplorer elle aussi le paquet d'heures perdues à l'école et les grandes difficultés qui sont les siennes à faire en sorte que Merveille saute une classe dès la maternelle. Mais j'avais écrit avant, il n'y a pas d'imitation là de ma part.
Non, oui, c'est plutôt prophétique du reste.
Peut-être.
Ah ouais.
Peut-être si... que Merveille est le messie.
Ouais,
je n'y
même
avais
si...
pas pensé, mais ça c'est...
Même si tu es davantage anarchiste que chrétienne, on a bien noté, tu peux à la fois être prophète. Mais oui, donc je me disais que bien sûr, ce travail d'observation que tu fais, il est inscrit aussi dans une... comment dire... non pas une théorie de l'éducation, parce que tu ne vas pas te dire théoricienne de l'éducation, mais clairement une conscience claire que ce n'est pas pour rien que Rousseau a écrit le contrat social en 1762, en même temps que l'Émile, hein, et que si on ne prend pas conscience que l'éducation, effectivement, est d'abord une affaire politique et d'institution politique, mais aussi une prise de conscience individuelle, familiale, que ça commence par nous, ça commence à l'intérieur de chaque famille. C'est-à-dire, qu'est-ce que chaque famille fait, qu'est-ce que chaque mère de famille, chaque père de famille fait pour inscrire son enfant dans la mixité sociale, culturelle, pour lui donner accès au meilleur de ce qui fait l'instruction aujourd'hui, mais l'ouvre aussi à la différence. Est-ce que tu serais d'accord pour dire ça ou pas du tout ?
Pour dire que quoi ? Que l'école est politique ?
Oui, que l'école est politique, évidemment. Ouais. Mais que finalement l'institution politique ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut aussi que la prise de conscience des parents se fasse peut-être au quotidien, dans le choix quotidien de mettre ses enfants à la cantine, de mettre ses enfants...
Oui, non, alors moi je ne dirais pas ça parce qu'en fait ça me paraît déjà tyrannique que d'aller imposer aux familles et aux parents... une forme d'éducation qu'on leur imposerait. Donc chacun fait bien comme il veut à l'intérieur de sa maison, dans les limites évidemment du respect dû à l'intégrité psychologique et physique et morale de l'enfant. Non, c'est plutôt du côté de l'école, c'est-à-dire qu'il me semble bien qu'on pourrait, contre l'école capitaliste, contre le libéralisme installé dans l'école, contre l'émulation constante qu'on appelle ainsi parce qu'on ne veut pas l'appeler rivalité ou concurrence, quand on installe Parcoursup, quand on installe l'évaluation constante, quand cette évaluation quitte le seul champ de l'école pour devenir, pour se généraliser à la société tout entière, quand on ne peut pas aller consulter un médecin, prendre un taxi, un train ou un avion sans avoir à noter tous ces gens-là qu'on a rencontrés à cette occasion-là. Oui, il me semble bien que c'est plutôt du côté de l'école et du côté de la société qu'il faut rompre avec le libéralisme et que par après, chacun fasse bien comme il peut ou comme il veut dans les familles. Enfin, il n'y a pas l'obligation de la cantine, non. Il y a des gamins qui n'aiment pas manger à la cantine. Et bien, ma foi, il n'y a pas de raison non plus de les y forcer. Mais en revanche, on doit pouvoir faire l'école, ça c'est bien certain, sans que l'école installe la concurrence comme une évidence. Et ça, alors là, pour le coup, oui, c'est du côté de Freinet, c'est du côté des camarades de l'ICEM qu'il faut aller chercher, parce que eux ont des idées et mettent en place des choses qui sont extrêmement, extrêmement intéressantes et souvent très fécondes, comme l'a fait Véronique Descaires pour parler justement des instituteurs, comme le font un certain nombre d'enseignants. Je pense à la CIREF ou...
qui est une association de professeurs de philosophie, oui, qui travaille de manière très collaborative et collégiale. Oui.
Et qui essaye justement de mettre en place des solutions pédagogiques qui ne soient pas celles qui préparent les gamins au rouleau compresseur du grand capital. Oui, je pense qu'on peut faire ça. Donc, pour répondre à ta question, dans le cadre des familles, je ne dirais pas ça. Chacun fait bien comme il veut, encore une fois. Mais dans le cadre des institutions publiques, et en particulier de l'école, oui, il doit être possible de faire une école socialiste, si on veut être rousseauiste.
Merci, c'est le moment d'écouter les Berruriers Noirs, justement. Magnovchina, je l'ai bien dit.
Que ce soit l'armée rouge, les flics de Pretoria, malgré le sang qui coule. Magnovchina, Magnovchina, les drapeaux sont noirs.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
C'était les Berruriers Noirs. Et les Berruriers Noirs sont exposés en ce moment à la BNF, j'ai vu. Donc, ce sera l'occasion d'aller saluer ces anarchistes. Alors, pourquoi les Berruriers Noirs, Catherine ?
Pour Macno, parce que c'est le nom d'un des deux poissons rouges de l'institut de CM2 de Merveille, qui est un frénétique, comme on dit, voilà, qui fait l'école comme Célestin Freinet propose de le faire. Et il a deux poissons rouges, un qui s'appelle Macno, l'autre qui s'appelle Léo. Et puis le hamster s'appelle Célestin. Mais ça, c'est un hommage à Freinet. Voilà, parce que ça m'a permis de donner aux bêtes les prénoms des gens pour lesquels j'ai de l'admiration.
Voilà. Est-ce que tu pourrais expliquer précisément les différents points de la pédagogie Freinet que tu exposes finalement dans le chapitre sur le confinement chez le grand-père, chez le papa de papa?
Ah oui, alors moi je suis strictement incapable de faire un exposé circonstancié sur la pédagogie Freinet, mais il faut aller voir... Le site des ICEM là-dessus, parce qu'il y a plein d'instituts qui continuent à travailler comme ça, de manière ultra intelligente, et en privilégiant le travail collectif.
Un travail de coopération, finalement.
Sur la coopération, en insistant sur le fait que tous les enfants sont capables d'apprendre et que c'est... au maître, évidemment, d'adopter ces méthodes pour permettre à l'enfant de retrouver le goût d'apprendre. Et ce que pratique le grand-père, c'est quelque chose qui s'apparente à ça, c'est-à-dire faire en sorte, Rousseau dit ça aussi dans les Mille, faites en sorte d'apprendre aux enfants des choses dont il a l'impression qu'elles sont utiles. Alors, parce qu'il est utile de faire des cookies un peu plus gros au petit déjeuner qu'au goûter, le grand-père apprend à merveille à multiplier et à diviser. On sait bien, nous, que la taille des cookies importe peu et qu'on pourrait en manger deux au lieu d'un. Mais ce qui est important, c'est de faire école avec la vie, de faire école de tout, de compter, de ramasser des plantes et de les faire sécher expressément entre les feuilles du canard enchaîné.
Qui est la lecture privilégiée du papa de papa.
Du papa de papa, voilà, c'est un grand lecteur du canard enchaîné. Et puis compter, puis regarder les étoiles, et puis raconter des histoires.
De joindre l'utile à l'agréable.
De s'appuyer sur cet intérêt-là chez l'enfant. Et de fait, ça marche. On sait bien que ça marche. Enfin, ça marche infiniment plus qu'en essayant de les installer devant des podcasts débilitants sur les écrans. Il faut faire les choses avec eux. Et ça ne nécessite pas un matériel de dingue. Il faut un vieux canard enchaîné, trois feutres, quoi.
Oui, et c'est vrai que j'aimerais bien écouter Myriam sur ces pratiques pédagogiques, parce que, bon, moi, pour l'avoir expérimenté du côté des parents, puisque j'ai été... parents de tes élèves qui étaient mes enfants. Alors j'ai le souvenir très précis de l'époque où tu faisais apprendre à mon fils aîné des listes de mots, de vocabulaire en CM2. Ça a été très utile pour le goût du vocabulaire, mais je sais que tu ne pratiques plus ça aujourd'hui, tu changes tout le temps tes pratiques. Alors est-ce que tu pourrais nous parler justement de ces façons différentes que tu as de travailler, la mise en place que tu as faite en tant que directrice d'école d'un cahier rose. Alors, ce n'est pas le livret rouge, mais c'est un cahier rose qui va suivre l'enfant depuis le CP jusqu'au CM2, justement pour lui donner davantage de liberté, peut-être dans sa découverte du monde, et qu'il se rende compte qu'il est véritablement acteur et que tout ne se situe pas dans l'apprentissage scolaire mécanique, mais dans beaucoup de pratiques qui sont transversales finalement. On t'écoute.
Oui, mais en fait, quand j'ai commencé ce métier, je me raccrochais un peu à mes fiches de préparation, à des choses très théoriques, des livres, des guides du maître, et puis... on va dire que la chance qu'on a quand même, c'est cette liberté, puisqu'on n'a pas de patron au-dessus, on n'a personne dans la classe avec nous, donc on est très libre des enseignements qu'on livre à nos élèves. Et donc, que ce soit un enfant de CP de 6 ans, un enfant de CM2, alors oui, on a des programmes à tenir. Oui, on doit apprendre la division, la multiplication, mais comme l'a dit justement Catherine, je crois que la chose première, l'intérêt premier, c'est de pouvoir en faire en faisant des crêpes, en faisant le carnaval, en donnant de l'intérêt aux enfants, de ce qui leur parle, pour que ça soit mieux appris avec du plaisir et pas du systématique et du mécanique. Donc, en effet, pendant ces 20 ans, les pratiques ont évolué et tu parlais du cahier rose. Alors ça, c'est en direction. J'ai pu mettre en place dans l'équipe ce cahier qui va suivre l'élève qui entre au CP jusqu'au CM2 et toutes les sorties pédagogiques que l'on fait au théâtre, au cinéma, nos lectures, tout ce dont on peut parler hors programme scolaire, on les note en traces écrites. Et du coup, à la fin de ces 5 ans d'école élémentaire, ils partent au collège avec une banque de données un peu culturelles pour leur donner après envie peut-être d'aller par eux-mêmes ou avec leurs parents au théâtre, au cinéma, vers des lectures qu'ils n'auraient peut-être pas eues au sein de leur famille. Donc voilà, c'est essayer de les faire grandir, de les éduquer et de donner du plaisir et du sens aux apprentissages. Mmh. Voilà.
Oui, et c'est vrai que dans le travail du maître et dans la lecture aussi qu'on peut faire de merveilles, on voit tous les plaisirs annexes, notamment la sortie au théâtre, hein, Merveille au théâtre. Moi, j'aime beaucoup ce chapitre. Et c'est l'occasion aussi de rappeler, Catherine, que tu es aussi critique de théâtre. Hein, tu ne parles pas beaucoup de ce que tu fais, mais voilà. Enfin, elle n'aime pas trop parler d'elle, Catherine, c'est son problème. Mais bon, ça fait quand même 15 ans que tu vas beaucoup au théâtre et que tu écris beaucoup sur le théâtre, n'est-ce pas ?
Oui, 20 ans.
Voilà, c'est le temps de la confession, Madame Robert.
J'avoue.
Et ça te fait vivre, le théâtre. Et Myriam aussi, je sais que tu es vraiment une...
Alors moi, c'est pour du loisir.
Oui, personnel.
Personnel, avec mes élèves aussi, mais surtout personnel.
Oui, c'est ça. Et j'aimerais qu'on parle aussi de cette importance du théâtre maintenant, parce qu'il me semble aussi que c'est le livre, en fait, Les Aventures de Merveille, pourrait tout à fait être adapté au théâtre, à vrai dire.
C'est vrai.
Et parce qu'il a ce condensé, et il a cette... Enfin, on imagine tout à fait un salle en scène qui joue tout le monde, en fait. Oui, moi, je te le dis, je suis sûre qu'il y aura qui va être adapté.
Potentiellement une adaptation.
Oui, oui. Donc, si vous le voulez bien, je vais proposer la lecture d'une partie du chapitre sur le théâtre. Et puis, on va parler de ce travail éducatif au théâtre, au spectacle vivant, à l'éducation, à la parole vive qu'on expérimente au théâtre et qui est si importante. Pour nous, professeurs qui aussi amenons nos élèves au théâtre et qui découvrent quelque chose qui est tellement unique. Enfin... les spectacles vivants, zut quoi, ça nous transforme. Et c'est l'occasion aussi peut-être de faire un rapprochement, enfin en tout cas c'est une pièce que j'ai vue cette semaine et qui m'a complètement emballée, qui se joue au Lucernaire. Alors je ne sais pas si tu l'as vue encore, Catherine, c'est Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, donc un roman de 700 pages. C'est ce qui me fait dire que ton petit livre de 130 pages peut aussi être adapté au théâtre. Donc Les Travailleurs de la mer ont été adaptés au théâtre par Clémentine Niudanski et joué, interprété par Elia Birman. C'est un seul en scène absolument éblouissant. Donc la pièce est disponible à l'Harmattan, hein, on peut aussi se la procurer. Mais donc c'est un spectacle vraiment incroyable, qui rappelle aussi ce que c'est que la force de résistance de ce Gilliatt qui nourrit cet amour secret et qui va réparer ce bateau échoué pour pouvoir peut-être obtenir la main de sa belle. Et l'histoire de cette résistance est écrite par Hugo pendant l'exil. C'est aussi une histoire sociale. Hein. C'est toute l'histoire sociale que tu mènes, il me semble, Catherine. Et qui est bien racontée, je trouve. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup touchée dans ce chapitre Merveille au théâtre. Tu veux le lire ?
Ah non.
C'est moi qui lis. Aujourd'hui est un jour extraordinaire. Merveille va au théâtre avec sa marraine, qui est la meilleure amie de maman et qui s'appelle Reine. Elle est très sympathique, Reine. C'est moi qui
rajoute. Malika.
Malika. C'est la maman de Merveille qui lui a donné ce nom et Merveille en a pris l'habitude depuis qu'il est petit. À chaque fois que Merveille parle de Reine à papa, papa rigole et dit « Heureusement qu'on n'a pas fait un baptême républicain !» Le théâtre est un endroit où maman et Reine vont ensemble de temps en temps. Elles y allaient plus souvent avant, mais beaucoup moins depuis que Reine ne vit plus dans la même maison que le monsieur roux qui avait une tête d'ogre et une grosse voix. Il jetait Merveille en l'air et le faisait énormément rigoler quand il était petit, mais la maman de maman ne l'aimait pas du tout. Quand elle parlait de l'ogre roux, elle l'appelait « le chômeur professionnel ». Maman n'aime pas quand sa maman dit des choses comme ça devant Merveille. « T'avais qu'à pas voter socialo si tu détestes les intermittents !» Quand maman dit socialo et qu'elle accuse sa maman d'avoir voté pour eux, c'est qu'elle est super énervée. Pour aller au théâtre, Reine est venue chercher Merveille à la maison et ils ont pris le métro. C'était long. Ce qui est embêtant avec Reine, c'est qu'au lieu de regarder sa boîte magique dans le métro comme tous les adultes normaux, elle veut toujours discuter avec Merveille. Elle lui pose des tas de questions inutiles ou le force à lire le nom des stations de métro. Tout ça parce que désormais, il sait lire. C'est fou le nombre d'adultes qui essaient de faire la maîtresse dans la vie de Merveille. Après le métro, on a marché lentement, longtemps, et enfin, on est arrivé au théâtre. Il y avait plein d'enfants qui rigolaient dans le hall. Mais eux, ils étaient avec une vraie maîtresse. Après, Reine a donné un petit bout de papier bleu à Merveille et lui a dit de le donner à la jeune fille qui faisait entrer les enfants dans une grande salle en pente avec plein de bancs recouverts d'un tissu rouge qui sentait la poussière. Une dame assez vieille avec des habits noirs et mous et des cheveux orange comme la maman de maman est venue parler devant tous les enfants et Merveille a été sidérée. Elle a dit aux enfants qui avaient un portable de l'éteindre et certains enfants ont sorti une boîte magique de leur poche. Incroyable ! La boîte magique s'appelle un portable et des enfants qui ont le même âge que Merveille en ont un à eux. Donc ce n'est pas un jouet pour les grands. Merveille en était sûre. Il faut qu'il en parle à maman. Si ça se trouve, elle ne le sait pas. Après, il a fait tout noir et une dame assez vieille mais déguisée en petite fille est venue pour raconter une histoire. Et puis un monsieur déguisé en lapin avec une grosse montre est venu la rejoindre. Merveille a compris. Il a reconnu l'histoire d'Alice au pays des merveilles que la maman de maman lui montre à la télévision quand il pleut et qu'on ne peut pas aller faire un tout petit tour. Merveille adore ce dessin animé, car il y a son prénom dedans. Du coup, Merveille a pensé à la maman de maman et il n'a plus écouté l'histoire. Après, le monsieur qui était d'abord déguisé en lapin est revenu, mais cette fois-ci, il était déguisé en reine de cœur. Merveille a tout de suite compris que c'était le lapin qui faisait la reine et il a essayé de prévenir Reine, mais Reine lui a dit de se taire. Merveille aurait bien aimé lui dire qu'il remarquait pour la première fois qu'ils étaient tous les deux dans la même histoire. Mais le théâtre est un endroit où les enfants qui viennent avec un adulte n'ont pas le droit de parler, alors que ceux qui viennent avec leur école peuvent crier à Alice de faire attention, peuvent aussi tirer les cheveux de ceux qui sont devant ou se lever d'un coup. À la fin d'ailleurs, tout le monde s'est levé pour applaudir. Merveille et Reine sont repartis. Avant de rentrer à la maison, ils sont allés manger un sundae fraise au McDo. Ça, c'était très cool. Reine a dit à Merveille de ne pas le dire à maman, mais Merveille a fait une gaffe quand maman, le soir, lui a demandé ce qu'il avait préféré au théâtre. Du coup, Merveille n'a pas osé parler du portable.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
C'est évidemment pas un livre pour les enfants. C'est un livre sur les enfants. Et mieux encore, je pense que c'est un livre sur leurs parents et sur ces parents-là qui vont pas toujours très bien. Donc il s'agit pas évidemment de faire une satire des enfants ou de l'enfance, ou en tout cas plutôt de celle qu'impose la société actuelle aux enfants d'aujourd'hui. Donc je m'attendais pas à ça parce que c'est un livre qui est tombé entre les mains de quelques adolescents de mon entourage, y compris mes neveux qui sont de jeunes adolescents et que ça a fait rigoler. Alors moi évidemment j'étais un peu enquiquinée parce que je me suis dit que si ça faisait rire les enfants aux dépens de leurs propres parents, je risquais d'avoir maille à partir avec les 10 parents. Mais bon, les parents eux-mêmes ont ri, donc ça va, jusque-là, tout va bien. Mais les enfants, bah, évidemment, reconnaissent forcément la tyrannie ordinaire qui leur est imposée. C'est-à-dire la nécessité d'être le premier de la classe, la nécessité d'être ultra compétitif dès le CP, parce que c'est bien évidemment en CP qu'on prépare son avenir.
Sa classe préparatoire.
Et la nécessité d'être toujours le meilleur, le plus affûté. Contrairement au papa de papa qui, lui, n'oblige pas Merveille à se lever à une certaine heure et ni même à se laver, mais qui lui dit quand même de temps en temps « Tu pues, Merveille, va te laver, voilà. » C'est pour ça que je préférerais terminer dans la clairière de lettres plutôt que avec le papa de papa, plutôt que dans l'école devenue folle de la République qu'il est tout autant.
Oui, et devenu un mauvais parc d'attractions, finalement. Et oui, cette clairière de lettres du papa de papa, elle est absolument réjouissante avec ses saucissons dans le cellier et ses bonnes nourritures aussi, ou ses livres d'art qu'on ouvre le soir plutôt que de faire du calcul bête et méchant. Et... oui, pour en revenir justement à la question du théâtre et du jeu, tout simplement. Voilà, du jeu qu'on peut, dont on a besoin et dont les enfants ont besoin justement pour grandir. Je me demandais justement si tu utilisais encore le théâtre, toi, dans tes cours, si tu continuais d'amener peut-être tes élèves au théâtre
Non, parce qu'à Paris, ils y vont, c'est facile. Donc, il n'y a pas de nécessité de s'en occuper, en parler forcément. Enfin, oui. Je veux dire, on peut pas ne pas parler du théâtre comme on peut pas ne pas parler de la littérature ou d'autres formes d'expression artistique, sans plus. Non, ce sur quoi moi je voulais revenir quand même, c'est sur la clairière de lettres, pardon, mais pour dire juste ça, que on doit pouvoir apprendre en vivant et en riant et en s'amusant, parce qu'en fait c'est ça la vie, c'est apprendre. Et le problème, c'est que l'école, elle est devenue l'envers de la vie, ce qui est complètement aberrant quand on regarde les quelques enquêtes sociologiques qui sont faites. Et c'est les sociologues qu'il faut lire, à mon avis, en ce moment, bien davantage encore que Merveille. Moi, je serais ravie que les aventures de Merveille donnent aux gens de lire Bernard Lahir ou
Wilfried Ligné. Qui est cité du reste dans votre
livre. Ou Wilfried Ligné, ou Julie Pagis. Ou les gens qui travaillent actuellement sur ces questions-là. Et parce que c'est ça qui est intéressant. Mais ce qui est complètement terrifiant, c'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand on demande aux gens s'ils ont aimé l'école ou pas, la réponse est massivement négative, que les enfants s'ennuient à l'école, que les parents ne font pas confiance à l'école. Donc, qu'est-ce que c'est que cette école qui est devenue un repoussoir à la vie. C'est ça le contre-modèle que propose la figure du grand-père. C'est une vie où on apprend tout le temps, en fait. Mais c'est ça qui est bien, en fait. C'est cette vie-là où on apprend tout le temps. Et l'école, ça peut être ça, je crois. Enfin, pour le théâtre, évidemment, emmener les élèves au théâtre, mais les emmener aussi au cinéma, les emmener au cirque, les emmener visiter Paris... les emmener voir le monde et puis les emmener au musée, enfin les emmener voir ce que d'autres qu'eux-mêmes ou ceux dont ils ont l'habitude présentent du monde.
Oui, c'est tout ça. Simplement enfin... aussi peut-être pour revenir à cette clairière de lettres. Alors la clairière de lettres, c'est une expression que tu empruntes à Heidegger
que j'emprunte à Heidegger et à des vieux amis aussi qui habitent eux dans une clairière de lettres qui parce que leurs habitants sont des grands lecteurs d'Heidegger portent ce nom, voilà, un clin d'œil mise en abîme, cette clairière de lettres.
Oui, et cette clairière de lettres, alors moi, plutôt que d'ailleurs que le théâtre et le monde de la culture, elle m'a évoqué tout simplement aussi le monde monde de la nature. Et puisqu'on est avec une institutrice de Vanves, je rappelle quand même que les classes de neige et les classes découvertes ont été instituées par un Max Forestier qui était justement médecin à Vanves, et que tout cela s'importe, amener aussi des jeunes dans la nature, leur permettre d'apprendre au sein même de la nature. Finalement, c'est ça qu'on trouve chez le papa du papa, parce que lui, il sait tout faire avec... avec la nature, et il fait aussi un vrai travail de culture qui est la transformation de la nature au plus proche de ce qu'elle est. Donc oui, alors moi j'ai beaucoup entendu de textes aussi de anarchistes de L'homme et la terre d'Élisée Reclus en te lisant.
Oui, évidemment, Élisée Reclus. Ouais.
Et c'est donc l'occasion de te remercier et de terminer avec la lecture d'un poème de Victor Hugo par Myriam, qui va lire ce poème qu'elle fait apprendre à ses propres élèves de CM2. Et vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre écoute précieuse. Vous invitez tous à vous précipiter, trouver le livre de Catherine, édité par Elliott.
Et dans toutes les bonnes librairies.
Bien évidemment. Écoutera la tendresse, bien sûr, de l'âge d'or en se quittant, l'âge d'or de Léo Ferré, choisi par Catherine Robert. À toi, Myriam, merci pour Victor Hugo.
Avec plaisir. En hiver, la terre pleure, de Victor Hugo. En hiver, la terre pleure, le soleil froid, pâle et doux, vient tard et part de bonne heure, ennuyé du rendez-vous. Leurs idylles sont moroses, soleil, aimons, essayons. Ô terre, où donc sont tes roses, astres, où donc sont tes rayons? Il prend un prétexte, grêle, vent, nuage noir ou blanc, et dit « C'est la nuit, ma belle, et la fête en s'en allant ». Comme un amant qui retire chaque jour son cœur du nœud et, ne sachant plus que dire, s'en va le plus tôt qu'il peut.
Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons celui qui pétille, même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches, et le plus souvent, lundi sera dimanche, mais notre âge alors c'est comme des filles dans le sable fin. Nous aurons des filles.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.